J'ai trouvé que c'était une excellente idée d'André de demander quand et comment on s'est converti. Alors, je n'ai donné que la moitié de la réponse, moi, parce que c'est vrai que c'était un témoignage, mais c'est tout aussi par des naufrages à deux occasions. Alors, je ne sais pas si vous avez jamais été naufragé. Je ne le recommande pas comme un moyen de vacances l'année prochaine. De se trouver dans l'eau et de disparaître deux fois et ne pas savoir si on va reparaître la troisième fois. Ça m'est arrivé, je ne vous le recommande pas. C'est assez mouillé, assez froide comme expérience. Mais quand le bateau est venu qui m'a sauvé, je savais que j'étais sauvé. Il y avait un moment précis dans ma vie où c'est arrivé. Et même si nous arrivons à l'Évangile tout doucement dans nos vies, il y a un moment donné où on sait. Il y a un passé, on n'était pas au Seigneur. Il y a un présent et un avenir, on est au Seigneur, mais à cause de lui. C'est un moment précis. C'est un peu mon thème de ce matin dans cette étude sur les dons et les ministères. Il reste les prophètes et les pasteurs docteurs pour les futures occasions, Dieu voulant. Alors, j'aimerais lire avec vous les deux passages qui doivent être indiqués au tableau, je pense. Éphésiens 4, juste une partie de verset. On me dit qu'il ne faut pas choisir des versets hors de contexte. Je veux bien lire tout le verset, et tout le verset n'est pas approprié. Donc, je vais m'attacher à ce qui est approprié. Verset 11 d'Éphésiens 4, c'est lui qui a donné les uns comme évangéliste. C'est lui qui a donné les uns comme évangéliste. Et puis dans l'évangile de Marc, un passage qui est contesté parce que ça ne paraît pas dans toutes les versions, mais ça paraît dans tellement de versions et ça complète et se concorde avec tout ce qui est déjà écrit que je ne mets pas ça en doute. Je lis dans Marc chapitre 16, et nous lirons à partir du verset 20. Puis Jésus leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle n'est pas un sentiment, juste une expérience, juste une autre manière de voir la vie. Ce n'est même pas lever les mains. Moi, j'aime beaucoup lever les mains. Et ce n'est même pas applaudir, mais j'aime beaucoup applaudir. C'est être joyeux, mais parce qu'avant, on était perdu. Et on s'est rendu compte qu'on était vraiment perdu, sans espoir. Et on a reçu Jésus-Christ comme sauveur. Et on a compris qu'il était mort à notre place, une mort terrible. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chercheront des démons. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à chasser les démons. Ne sortez pas ce matin pour commencer à le faire. Si Dieu ne vous a pas amené à faire ça, appelé à faire ça devient dangereux. Et ils saisiront des serpents, vous verrez ça par la suite. Mais je ne vous recommande pas ça comme expérience non plus, si Dieu ne vous y amène pas. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Que le Seigneur bénisse cette lecture. La première fois, la bonne nouvelle était annoncé dans le Nouveau Testament, c'était quand, où et par qui? Vous vous souvenez? Par un ange qui s'est trouvé devant une bande d'hommes effrayés, découragés à cause des circonstances autour d'eux. C'était au milieu de la nuit, il ne faisait pas chaud, et subitement quelque chose est arrivé, ils ne savaient pas trop bien quoi. Nous, on est dans une période de l'histoire où les gens sont effrayés. Ils se demandent ce qui va se passer demain. j'ai appris que la BNP avait des problèmes et mon compte est à la BNP. Est-ce qu'il faut que je cours ailleurs? Je pense que toutes les banques auront les mêmes problèmes. On est dans ce genre de situation. La première fois que la bonne nouvelle était annoncée, c'est un ange qui a dit, « N'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup de tout le peuple. » Une bonne nouvelle qui réjouit le peuple. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est qu'un sauveur vous est né. C'est qu'une personne, et la rencontre avec cette personne, change tout. Je le dis pour ceux qui n'ont pas fait ce pas, que vous le fassiez, cette rencontre avec le Sauveur. Je le dis pour nous tous, pour que nous le partagions avec d'autres autour de nous. Mais prenons courage. Jésus-Christ a pris une bande de gens, une bande de craintifs, d'hommes incapables. Il leur a confié la bonne nouvelle, l'Évangile. L'Évangile. Son importance est marquée très clairement quand nous lisons l'Écriture. Si vous lisez dans le grec, Evangelion, la bonne nouvelle, le substantif, se trouve 72 fois. Et pour les Helvètes, 72 fois dans le Nouveau Testament. Et le verbe qui dit cela, 52 fois, d'évangéliser. Donc c'est important. Il est important qu'on se pose la question comme chrétien, communauté, de quelle manière est-ce que nous évangélisons la ville où nous sommes, le pays où nous sommes et le monde dans lequel nous sommes. C'est pour cela que samedi prochain, de 10h à 20h, nous allons prier ensemble ceux qui veulent. Et j'aimerais bien que ceux qui ne veulent pas viennent aussi. Hein. Ceux qui veulent de 10h à midi pour prier pour le monde arabophone qui passe par des moments difficiles et pour les chrétiens là-bas qui souffrent ce matin même à cause de la bonne nouvelle. Et on disait des premiers chrétiens, ces individus sont des révolutionnaires qui ont mis le monde entier sens dessus, dessous. Ça a tellement frappé mon cher père qu'il a intitulé une série de 12 volumes sur l'œuvre missionnaire par ce même titre, Le monde qui a été mis par des révolutionnaires de sens dessus à dessous. L'Évangile n'est pas quelque chose qui est endormi. Il y a des gens qui le pensent. J'ai lu l'autre jour le témoignage d'un de mes amis qui est devenu anesthésiste. Il a dit, mon père n'est pas anesthésiste, il est prédicateur de l'Évangile. Il a dit, moi j'endors les gens par la morphine et mon père endort les gens par ses prédications. J'espère que je ne vous endors pas quand je partage l'Évangile. Si oui, dites-le moi. Parce que la bonne nouvelle n'est pas pour s'endormir. La bonne nouvelle, c'est pour joyeusement prêcher que Jésus-Christ est mort et qu'il est vivant et que nous avons une espérance dans ce monde. Et mon premier point que vous voyez là, c'est que Dieu le Père est l'initiateur de la bonne nouvelle. Vous vous souvenez comment? Dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous connaissez ce verset? Aussi oui, on le dit ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Dieu qui a initié cela. C'est le ministère de réconciliation de la part de Dieu envers les hommes. L'évangélisation, c'est une œuvre de réconciliation. Nous devons commencer à la vivre, cette œuvre, parmi nous, constamment. Ce n'est pas juste une fois. C'est dès que le Seigneur nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de le croire une deuxième fois. Moi, je m'étais posé pourquoi un frère m'avait envoyé un mail pour que je sois là à 9h30 ce matin pour boire du café. Je m'étais dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et je suis allé à 9h30 et j'ai compris le pourquoi. Parce qu'on a vécu des moments de communion ensemble et c'était formidable. Alors mes amis, nous avons ce ministère de réconciliation, de vivre ensemble de nous demander pardon quand il y a quelque chose qui ne va pas, de rechercher la tristesse et de vider les abcès de tristesse pour que la joie soit mise à la place. Et quand nous faisons ça, nous continuons de le faire auprès des autres et dans le monde autour de nous. Deuxième chose que j'aimerais souligner, on en a beaucoup parlé dans l'étude biblique de Jean-Paul le jeudi soir, Jésus a ordonné à ses disciples de rester en ville jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Moi, je trouve, parler de l'Évangile, ce n'est pas facile. Là, je dis, levez les mains tous ceux qui trouvent ça facile de parler de l'Évangile. Une personne, alors Jean-Michel va nous le dire comment un de ces prochains jours. Moi, je trouve que c'est difficile. Mais je demande au Seigneur de m'accorder la puissance et l'autorité du Saint-Esprit pour en parler. Hier, je fais une petite confession, je regardais depuis la fenêtre, j'ai vu la nouvelle voisine qui s'installe dans sa maison. Et je me suis dit, mais il faut que j'aille lui dire que je suis chrétien, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? J'ai tellement réfléchi que finalement je ne suis pas allé. Mais ce matin, le Seigneur m'a dit, mais n'oublie pas cette semaine qu'il faut que tu ailles accueillir ta nouvelle voisine et que tu lui dises que l'amour de Dieu est là pour la bénir. Vous priez pour que j'aie le courage, parce que j'ai toujours du mal à faire ce genre de choses. Toujours du mal à parler de l'Évangile. Mais quand je commence, ça vient, tout seul. C'est la puissance du Seigneur qui travaille en nous. Vous recevrez une puissance. Le Seigneur l'a promise. Quand il a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et de peur de l'avoir dit 100 fois déjà, je le redis la 101e fois, la traduction gestionne de ce verset, c'est « Vous serez mes témoins à Prévesin, au pays de Gex, en Haute-Savoie, dans la France toute entière, jusqu'aux extrémités de la terre, l'Afrique du Nord, le Liban, l'Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, le Bénin. » Est-ce que nous sommes des témoins comme cela? Le Seigneur nous a promis la puissance pour qu'on ne devienne. Ça ne veut pas dire qu'on va tous partir. Moi, je suis à la recherche d'une infirmière ou d'un médecin qui pourrait m'accompagner pour mon prochain voyage. J'ai déjà un médecin, mais je cherche un deuxième. Alors, priez pour que cet homme tombe dans le panneau, cette femme, et qu'elle vienne, et que nous ayons la joie ensemble. Vous avez entendu parler d'Hudson Taylor. Hudson Taylor, cet homme extraordinaire. Non, il avait un Dieu extraordinaire. C'est ça qui l'a rendu extraordinaire. Vous voyez la différence? Hudson Taylor, qui était le pionnier en Chine, il écrit, nous avons donné beaucoup d'importance aux méthodes, à l'organisation, aux ressources, et trop peu de place à la source de la puissance à la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que je peux répéter cette citation d'Hudson Taylor? Nous avons donné beaucoup d'importance, peut-être nous aussi, aux méthodes, à l'organisation et aux ressources, et trop peu de place à la puissance, à la plénitude du Saint-Esprit. C'est pour cela, bien-aimés, qu'il est indispensable que nous soyons réunis ou dans les cellules, ou la réunion de prière, ou quelques-uns à la maison, si c'est trop loin pour venir la semaine, ou des difficultés, et que nous prions les uns pour les autres, que nous prions pour que la puissance du Saint-Esprit nous saisisse et nous utilise. À ma connaissance, le pays de Gex n'a pas été tourné sens dessus, dessous. Pas encore, pas encore. J'attends ce moment-là où des gens commenceront à parler des chrétiens. Mon troisième point, c'est de nous rappeler que c'est vrai, certains ont reçu un don d'évangéliste en particulier pour la prédication. Vous penserez tout de suite à Billy Graham, mais il parlait en anglais ou en américain, c'est presque pareil. Mais chez nous en France, nous avons eu quand même Alain Choiquier, Yves Perry et d'autres, et prions pour que d'autres soient suscités, d'autres hommes et femmes, pour prêcher l'Évangile, parce que dans le Nouveau Testament, il y avait des femmes qui étaient autant au boulot que des hommes pour l'évangélisation. Heureusement qu'il y a des femmes qui sont missionnaires, parce que autrement, les listes de missionnaires seraient réduites de plus que la moitié. Plus que la moitié. Je téléphone souvent à une petite Bretonne qui se trouve actuellement dans le Midi, mais qui était évangéliste, missionnaire en Algérie. Et ce que Martha Daniel a amené au Seigneur, le nombre de personnes, c'est extraordinaire. Elle a accompagné des mourants, des femmes arabes données au Seigneur. Elle est allée à Paris pour rester avec ses mourants pendant plusieurs jours, pour les aider à témoigner jusqu'au bout. Nous avons besoin de ce en Christ, de ce calibre. Mais nous sommes tous appelés à être évangélistes. Peut-être pas tous appelés à prêcher en public. Quand j'étais tout jeune à Paris, je disais, Seigneur, je suis prêt à être le Billy Graham en France. Le Seigneur ne m'a jamais répondu parce qu'il savait que je serais devenu tellement fier de la chose qu'il ne fallait pas me confier cela. Je suis resté un petit bonhomme, c'est tout. Et le Seigneur veut nous utiliser tous. Elle est faite de toutes les nations des disciples. C'est nous tous cela, on est tous concernés. Elle est faite de toutes les nations des disciples. On est tous concernés, bien-aimés. Pour nos voisins, nous en face, les gens que nous voyons. Moi, j'étais triste que ma femme soit de nouveau en clinique, mais j'étais reconnaissant parce qu'on a pu évangéliser deux chirurgiens qui, il y en a un qui trouvait l'excuse de venir me voir tous les jours. Et on parlait de l'Évangile discrètement. Je ne lui disais pas, est-ce que vous voulez vous mettre à genoux maintenant, accepter Jésus-Christ? Ce n'était pas encore le moment. Et petit à petit, on a parlé de la bonne nouvelle. Une infirmière qui m'a dit, mais monsieur, je vais déménager, je ne vous verrai pas la semaine prochaine. J'ai dit, dites-moi, donnez-moi une minute. Déménager, c'est dangereux, ça. Elle m'a dit, pourquoi? Vous avez des histoires? J'ai dit, c'est dangereux. Parce que la Bible dit, si ce n'est pas Dieu qui construit une maison, on bâtit en vain. Ah, je n'avais jamais vu ça. J'ai dit, je vous le laisse encore. Si Dieu ne bâtit pas la maison, on bâtit en vain. Merci, monsieur, qu'elle me dit. Alors, priez pour que ça porte du fruit. Nous sommes tous appelés à propager la bonne nouvelle parmi les enfants. On bénit le Seigneur pour l'équipe qui travaille parmi les enfants, ceux qui travaillent en bas en ce moment. Et ce n'est pas facile, les enfants. Nos petits-enfants, pour nous qui sommes un peu plus vieux, et ils ne sont pas toujours faciles, nos petits-enfants. Ils courent à droite et à gauche. Et puis, les enfants du quartier, tout ça, merveilleux le témoignage que l'Assemblée a parmi les enfants du quartier. Prions pour cela. Prions pour cela. Soutenons l'équipe d'Emmanuel et Rebecca pour cela. Pas des rencontres de quartier, pas les distributions de traités. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, allez voir Jean-Michel. Il va vous engager. Il n'y a pas de 35 heures, je crois, pour ça. Il va vous engager pour cela. Et puis, dans des rencontres de quartier, par Alpha, par exemple, moi, j'aurai à cœur de penser que tôt ou tard, nos cellules puissent travailler Alpha. Et pas seulement les cellules qui existent, mais les groupes qui existent dans les maisons. C'est Alpha qui a joué un grand rôle. Parce que ça se passe en dehors d'un bâtiment, en dehors des histoires ecclésiastiques. Ça se passe entre amis et les gens sont plus libres. Mais j'aimerais dire qu'une vraie évangélisation n'est pas juste de chanter, n'est pas juste de serrer la main de quelqu'un disant « Vous êtes là, la bienvenue là ». Une vraie évangélisation doit être profonde et toucher la volonté, sans laquelle on ne peut pas devenir de vrais disciples. Jésus nous a demandé d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création et de faire des disciples, pas des adeptes, pas des membres de l'Église, la partie de l'Église qui se réunit ici au CEP, mais des disciples. Est-ce qu'on est tous des disciples? Moi, j'ai encore beaucoup à apprendre pour être disciple. J'ai été un peu révolté dimanche dernier, pas par le message. ni par l'introduction. C'était formidable tout cela. Mais un peu révolté par ce qui nous est arrivé avec Hélène et où je me demandais si elle allait revenir à la maison un jour. Puis le Seigneur eut pitié de moi. Mais j'aimerais vous dire qu'on peut être révolté quelquefois. Parce qu'on est des pauvres types. On a à se soutenir, prier les uns pour les autres. On en a besoin. Quatrième chose que j'aimerais dire, c'est l'Église ou la communauté chrétienne est une base de ressourcement. Mais chacun doit témoigner dans le cadre où Dieu l'a placé. Quelqu'un a dit un jour, un petit peu en riant, « Est-ce que vous pensez que Jésus-Christ a choisi une étable pour naître ?» Vous êtes né dans une étable, vous ? Non, dans une maternité tout propre et chaud et tout le reste. Et puis il a continué de témoigner dans une chope de menuisier qui était sans doute assez pauvre. Parce que quand Marie a dû venir payer le tribut pour la nouvelle naissance, elle a choisi ce qui était le plus HLM de toute la bande de tourterelles et pas autre chose. Alors mes amis, Jésus-Christ n'a pas choisi tout cela. Sa vie à lui ne devait pas être facile. Hein? Pas d'accord avec moi? Mais là où nous sommes placés, là où nous nous trouvons, nous sommes appelés à être témoins. Et dans les actes des apôtres, vous trouverez une variété de manières de communiquer la bonne nouvelle. Et on appelait, comme vous le savez tous probablement, ceux qui témoignaient de la bonne nouvelle, on utilisait le verbe, le substantif plutôt, « martyria ». Et finalement, ce mot est devenu le mot qui voulait dire quelqu'un qui allait mourir ou qui était mort à cause de l'Évangile. Un martyr, c'est ça que ça veut dire. Un martyr, c'est un témoin. Et Portes Ouvertes nous rappelle, Anne-Marie va nous compléter cela un jour, Portes Ouvertes nous rappelle qu'il y a plus de gens qui ont perdu leur vie pour l'Évangile ces dernières années que dans toute l'histoire du monde chrétien. Des gens qui perdent leur vie aujourd'hui en Iran, peut-être ce matin même, ailleurs dans ces pays troublés. Cinquième chose que j'aimerais rappeler, Jésus-Christ est l'évangéliste par excellence. Il est le messager et le message en lui-même. Quand on évangélise, on met quelqu'un en rapport avec Jésus-Christ, pas quelqu'un en rapport avec une église locale, ça suit. Ce n'est pas la première chose. La première chose, c'est de la mettre en rapport avec le Christ vivant et que ça soit une rencontre vivante. Et nous lisons de quelle manière. Et j'arrive à la chose la plus importante dans ce que je partage avec vous. Ce sont des questions à étudier ou à la maison, chez vous, si vous ne pouvez pas assister à une cellule, ou dans les cellules, dans les jours à venir. Parce que je n'aimerais pas qu'on prêche sans qu'il y ait une suite, sans que ça ne donne quelque chose. Et je parle là de ce passage de Luc 4, verset 18, que j'aimerais lire ensemble avec vous. Luc 4 et verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer l'année de la grâce du Seigneur. » Tout cela, Jésus-Christ l'a rempli. Mais je crois que c'est pour chacun d'entre nous, à commencer par moi-même. Le Seigneur m'a oint. Et comment moi-même? Comment moi-même? Jésus était oint et il nous offre d'être oint, saisi par l'Esprit. Oint par le Seigneur pour être un serviteur. Pour qu'il n'y ait plus rien du moi qui paraisse. Ce n'est pas intéressant cela. Mais que la bonne odeur de Jésus-Christ soit répandue. pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Comment vivre cela pour nous? Est-ce que nous pensons dans l'assemblée à ceux qui ont eu le cœur brisé? Il y en a qui ont perdu un proche. Et même si c'était il y a quelque temps, les blessures de la séparation ne sont pas encore guéries. Et nous avons besoin d'être des guérisseurs, des consolateurs dans ce domaine, pouvant l'être aussi à l'extérieur, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que ça veut dire que nous devons évangéliser surtout les HLM? Et j'aimerais vous dire qu'il y a des pauvres parmi les gens riches, les gens qui n'ont rien, qui n'ont point d'espérance, qui s'attendent à ce qu'on soit des messagers d'espérance. Et m'envoyer pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est merveilleux quand on voit des gens guéris de la drogue, libérés de la drogue, délivrés de la drogue, délivrés de la boisson, délivrés de la paresse, délivrés d'une mauvaise langue. Il y a toutes sortes de choses dont on a besoin d'être délivré. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. C'est fantastique quand on vit ça littéralement, mais c'est fantastique quand on le lit spirituellement. Quand on voit quelqu'un qui vient de découvrir que c'est vraiment Jésus-Christ qui est mort pour lui et que Jésus-Christ est vivant, la personne change. Il y a une différence dans sa vie, dans sa vie. Une jeune fille du Midi, avec Hélène, que nous aimons beaucoup, elle porte le nom qu'il faut porter si on est du Midi, une Magali. Et cette Magali, elle, c'est une jeune fille qui est consacrée pour le Seigneur, qui allait vivre une vie de célibataire jusqu'au bout. Et puis, il y a quelques semaines, elle s'est mariée. Puis elle m'a dit, vous vous souvenez pas de m'avoir vu avec celui que j'allais épousé, qui n'était pas encore mon fiancé. Et je me souviens, j'avais dit à Hélène lors de la mission à Marseille, Magali a l'air tellement heureuse. Il y a quelque chose de fantastique. Mais toi, un homme, moi, j'ai rien compris, moi. C'est après que j'ai compris ce qui s'était passé. Mais bien aimé, c'est pas la même chose avec Jésus-Christ. C'est pas la même chose quand on amène quelqu'un à la connaissance de Jésus-Christ comme sauveur, de voir le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Est-ce que je pourrais suggérer, j'ai une dizaine d'exemplaires de ça pour remettre aux cellules, aux personnes qui se réunissent seules à la maison, les questions de transport et tout le reste. Est-ce que nous ne pourrions pas étudier cela ensemble? Vous avec votre mari, votre femme, ou dans la cellule, dans un moment de prière, peut-être en voyageant, à certains d'entre nous qui doivent voyager souvent en avion, au lieu de perdre le temps de regarder cela, soit en pratique pour savoir comment traduire cela dans notre vie d'église et à l'extérieur. Et j'ai dit tout à l'heure, Jésus-Christ était le messager et le message en même temps. Dans Actes 10 et 38, nous avons ce merveilleux verset. Vous savez comment Dieu a oint de l'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qu'elle est de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui sont sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Ce don de l'évangéliste, cet appel d'être les porteurs de la bonne nouvelle. Ce qui ne veut pas dire, comme j'ai fait quand j'étais étudiant, de chercher une caisse à claire-voix et de me mettre dessus à la sortie des cours pour parler de Jésus-Christ. Je ne ferai plus ça aujourd'hui. J'ai un peu plus d'intelligence, j'espère. Peut-être pas beaucoup, mais enfin tout petit peu plus quand même. mais de partager quand le Seigneur a préparé le moment. Qu'est-ce que nous allons apprendre, mettre en pratique, vivre comme tout cela? Où est-ce que nous sommes des chrétiens? Comme le père de mon ami anesthésiste, il ne s'agit pas de celui que je connais à la tour, quelqu'un d'autre, bien plus loin que cela. Cet anesthésiste qui disait, mon père, ils ont donc des gens dans les réunions. J'espère que nous ne sommes pas endormis ce matin et que nous allons prendre cela. Dieu Seigneur, que veux-tu que je fasse, moi? Un traité à distribuer? Il y en a si vous avez besoin. Une Bible à donner? Il y en a derrière si vous avez besoin. Une parole de consolation pour quelqu'un, une parole d'encouragement, de demander d'être loin du Saint-Esprit. Avant que Philippe ne fasse les annonces, et j'en ai une à ajouter, Philippe, si c'est possible, après ou pendant, avant qu'il ne donne les annonces, est-ce que nous pourrons passer un moment dans la prière silencieuse et laisser le Seigneur nous dire, lui, ce qu'il veut de nous. Je n'étais pas là ce matin pour vous bafouer, mais pour vous encourager, pour dire le Seigneur vous aime. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Amen. Prions dans le silence un moment. Seigneur, je te remercie de ce verset qui nous était rappelé jeudi soir au sujet de David quand il a prié, Seigneur, restaure-moi, redonne-moi la joie de mon salut. Je te demande la même chose pour que tu me purifies de tout ce qui n'est pas de toi et que tu m'accordes la joie de mon salut. Amen.
Bonjour, c'est vrai, merci à André et Briand pour ce qu'ils nous ont apporté. Et c'est vrai que nous puissions tous ici trouver le chemin que le Seigneur nous a préparé ou le ministère dans lequel il désire que chacun puisse rentrer et marcher. Je partage avec vous les annonces. Demain soir, le conseil à 19h30. Mardi, la commission de travaux se réunit à 19h30 aussi. Mercredi, la chorale à 20h30. Jeudi, ici, la réunion de prière à 20h30. Samedi, il y a le culte pour les jeunes. Et c'est Pierrick qui va nous donner quelques mots à ce sujet.
Bonjour. Donc samedi soir, on a le culte pour les jeunes. On m'a dit de plus dire le culte de jeunes parce qu'après, on n'y comprend plus rien. Est-ce que c'est un culte qu'organisent les jeunes? Est-ce que c'est un culte pour eux? Prenez comme vous voulez, c'est un culte qui est fait pour les jeunes. Ils y participent quand même un petit peu aussi, mais vous êtes tous les bienvenus. Le sujet qu'on abordera, ça sera religieux ou amoureux de Jésus, ce samedi. Et on aura Daniela qui va venir discuter un peu avec nous aussi par rapport à certaines autres religions. On a un petit challenge. Ça ne va pas très très bien sur l'écran avec la lumière. Mais pour les jeunes ou bien même pour les plus grands, celui qui vient me dire ce que c'est ça, j'ai pas encore réfléchi à une récompense, mais il en aura une. Donc on voit pas très très bien. Hein, mais... C'est quoi? Non, non. C'est dans les territoires par là-bas, mais vous y réfléchissez. Hop, on enlève l'image. Donc si c'est spécialement pour les jeunes, mais comme on l'a toujours dit, souvent on entend des gens qui disent « Ah mais moi je suis jeune dans mon cœur ». Brian il dit souvent ça, qu'il se sent jeune. Ben si vous vous sentez jeune et que vous avez quand même envie de venir, on vous mettra pas à l'écart. Il faudra juste jouer le jeu de notre culte de jeunes, avec plus d'interactivité peut-être que dans le culte qu'on a ici. Mais vous êtes réellement les bienvenus. Donc samedi prochain, 20h30. Merci.
Et puis dimanche prochain, donc à 10h30 ici, le culte. Et c'est Jean-Daniel qui nous apportera le message de la part du Seigneur. Ensuite, on aura un pique-nique ensemble. Et dans l'après-midi, à 14h, Jean-Daniel nous présentera le travail qui se développe au Burkina Faso. Et chacun est le bienvenu. J'ai fini pour les annonces de la semaine. Est-ce que quelque chose aurait été oublié? Oui, Brian.
C'est ce samedi à 10h, de 10h à midi, qui est le moment d'intercession pour les missions. Et je pense qu'il y aura aussi Jean-Daniel qui nous dira pourquoi il est important de prier pour les missions. Et Sarah a accepté aussi de participer. Elle est là derrière, quelquefois on me dit, qui c'est Sarah? Tu peux lever une main quand même. Elle vient du Liban et elle aime le Seigneur. Donc de 10h à midi, un moment de prière spontané et libre pour l'œuvre missionnaire. Et je ne sais pas si tu vas parler des malades. Non, je ne veux pas parler d'Hélène, je te laisse faire ça. Ma femme m'a interdit de parler d'elle. Mais j'ai appris ce matin que Guylaine va se faire opérer, c'est samedi prochain, elle rentre samedi prochain. C'est ça? C'est ça, c'est bien.
Alors voilà, donc juste pour Guylaine, c'est vrai que nous pouvons beaucoup penser à elle. Elle va se faire opérer mardi à l'hôpital à Annecy. Pensons vraiment à elle, qu'elle soit gardée pendant cette opération, que le chirurgien soit conduit aussi. Aujourd'hui, elle n'est pas venue parce qu'elle ne se sentait pas assez bien. Donc prions vraiment pour elle. Prions aussi pour Hélène. Brian se retient de nous en parler, mais prions vraiment pour elle, pour qu'elle soit fortifiée, renouvelée et qu'elle retrouve vraiment toutes ses forces. Voilà, je vous invite à vous lever et je vais lire encore un dernier verset. Le dernier verset de 2 Corinthiens 13, le verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine.